et recherchée. Ève. On va parler de Ève, mais on va parler de la deuxième Ève, pas de la première. La première est intéressante, là, sinon on ne serait pas là. Mais la deuxième est encore plus intéressante. J'ai fait un petit acronyme pour m'amuser. L'Église victorieuse éternelle, ou l'Épouse victorieuse éternelle, ça fait Ève. Vous allez en apprendre plus au cours du message. Donc, ce matin, au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais toucher quelques sujets. Premièrement, souvent au niveau de l'Église, on s'arrête beaucoup au fait que l'Église, c'est des pécheurs qui ont été sauvés. Puis souvent, on s'arrête là, ou c'est juste que ça nous suffit. Mais ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est que ça peut être tellement plus. C'est un excellent début, ça prend ça, mais il y a encore plus pour nous en Dieu, en Jésus. Donc, les différents sujets que je vais toucher, ça va être l'amour de Christ pour son Église, le plan éternel de Dieu à travers et pour son Fils, puis nous, qui sommes le corps, l'épouse glorieuse de Christ. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un certain Paul de Tarse. Je vais toucher quelques-uns de ses écrits, surtout l'Épître aux Romains. Puis, un livre que j'ai lu et relu dans les dernières années, c'est « La vie normale chrétienne » de Watchman Nee, qui, dans ce cas-ci, a beaucoup amené au niveau du chapitre sur le corps de Christ, qui m'a beaucoup béni le mois passé. Puis, j'ai eu à cœur de vous amener quelque chose là-dessus par la suite. Donc, avant d'aller plus loin, je vais remettre le temps entre les mains du Seigneur, puis on va continuer. Merci, Père éternel, pour tes richesses incroyables et innombrables. Je te prie, Seigneur, ce matin, simplement de venir nous parler à chacun d'entre nous par ton Saint-Esprit, de venir nous faire réaliser des choses qui parfois on a lu plusieurs fois, qu'on a entendu plusieurs fois, mais que toi, Saint-Esprit, tu viennes les révéler différemment à nous, tu viennes les mettre en lumière. Merci, Père éternel, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu accomplis une œuvre jour après jour, puis tu vas la rendre parfaite à ton retour. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Donc, l'amour de Christ. Alors, l'Éternel... Ouais, je vais vous lire la référence, c'est Genèse 2. On peut lire. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Un autre passage que je vais vous amener relié à ça, c'est dans Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ces deux passages-là, je les mets ensemble parce que c'est vraiment un témoignage, oui, évidemment, de l'homme et la femme qui a été créé, mais au-delà de ça, de l'image que Dieu a voulu nous donner à travers ça, de son Église. Puis, son amour est tellement grand qu'il a été jusqu'à tout donner, puis mourir à la croix pour son Église. Puis c'est de ça que je veux surtout parler ce matin. On peut comparer deux choses quand on compare le plan de Dieu qui concerne la rédemption des péchés, puis des chrétiens qui sont à l'Église, puis qu'on peut définir comme étant des pécheurs qui ont été sauvés. Et le plan de Dieu qui concerne son Église, qui est pour lui sans tâche, puis qui va toujours l'être. Puis c'est nous, ça. Donc, j'ai fait un petit tableau pour résumer un petit peu plus vite l'idée. On peut voir au niveau du côté des pécheurs sauvés, que souvent on met l'accent sur le péché puis la chute. Puis c'est correct dans le sens où c'est réel, c'est très concret le péché et la chute. Mais si on prend le point de vue de Dieu au niveau de ce qu'il prévoit pour nous, lui, il voit une création divine en son Fils. Il s'est occupé du péché et de la chute, mais là, lui, il est ailleurs. Il nous amène ailleurs maintenant. Excusez, j'en ai quelques autres à lire avant. Au niveau des pécheurs sauvés, souvent on s'arrête à l'individu. L'individu a été sauvé, mais au niveau de l'Église, c'est un tout, c'est un corps. On n'est pas indépendant, on est interdépendant. Également, souvent, au niveau du péché, évidemment, il y a la connotation négative. Ça l'est pas mal négatif. Mais au niveau de l'Église, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle création. Puis, on va vers l'avant, on regarde vers l'avant, puis Dieu nous a rachetés. Maintenant, on est justifiés. Puis, c'est une connotation vraiment positive. Donc, au lieu de regarder en arrière, on regarde en avant. Puis, quelques autres points aussi. Évidemment, on est tous nés dans le péché. Mais l'Église, elle, lorsqu'elle est née, elle n'a jamais été touchée par le péché. Elle est composée de gens qui étaient pécheurs et qui sont sauvés, puis qui font encore des péchés, mais que c'est justifié par le corps de Christ, par le sang de Christ. Donc, devant Dieu, l'Église est sans péché. Également, on voit souvent le passage que je vous ai lu tout à l'heure qui concerne Adam et Ève, puis c'est une image de Christ et de son Église, ça s'est passé dans Genèse 2. Puis Genèse 2, c'est avant le péché. Le péché est arrivé à Genèse 3. Donc, c'est comme si l'image, ici on fait un parallèle, premier Adam, deuxième Adam, première Ève, deuxième Ève. C'est un peu bizarre peut-être pour vous, mais c'est vraiment ça dans le fond. C'est le premier Adam et la première Ève, c'est nos ancêtres. En chair et en os, ils ont péché, il y a eu la chute. On connaît la chanson, comme on dit. Mais le deuxième Adam, c'est Jésus, puis tous ses frères après. Puis la deuxième Ève, c'est son corps, c'est l'Église. C'est un peu comme une image spirituelle. Évidemment, c'est pas charnel, il n'y a pas eu une nouvelle race humaine avec une nouvelle ADN. C'est spirituel, c'est puissant. Puis même si c'est spirituel, c'est d'autant plus concret. Depuis toujours et de toute éternité, l'intention de Dieu pour son Fils est qu'il ait un corps qui puisse pleinement exprimer sa vie. L'Église est ce corps qui, au-delà du péché, qui est au-delà du péché. Christ et son épouse glorieuse formeront une seule chair. C'est une pensée que je trouvais vraiment, vraiment belle parce que les plans de Dieu, on apprend à les connaître en lisant sa parole, puis en ayant une relation avec lui, mais de réaliser à quel point nous, le corps de Christ, ici à Credo, mais partout dans le monde, le corps au complet de Christ, on est prévu comme étant l'épouse que Dieu voulait pour son Fils, puis le corps que Dieu voulait pour son Fils. En fait, Jésus a tout créé, mais il a créé par la croix son corps. Puis c'est des choses qu'on sait, mais c'est des choses, je trouve, qui amènent une autre dimension dans nos relations les uns avec les autres, puis dans notre manière de vivre le corps de Christ à l'extérieur des rencontres qu'on a. Une chose qui était apportée par Watchman Nee, puis que j'ai repris ici, parce que je trouvais que c'était particulier, c'est le fait justement que, oui, la mort de Christ a servi pour sauver nos péchés, puis pour être une grande rédemption. Mais il y a une raison pourquoi Jésus est mort sur la croix, puis qui ne concernait pas les péchés. Puis je pense que c'est vraiment concret. C'est quand on regarde comment il a préparé Adam en l'endormant pour sortir Ève de Adam, avant que le péché existe. Puis c'est un peu ça, dans le fond. Qui est apporté ici, c'est que malgré le fait que ce qui est super important, c'est qu'on commence par être sauvé de nos péchés, Dieu, il y a des plans pour nous qui incluent le fait que en Jésus, quand il est mort à la croix, il avait prévu créer Ève, son épouse, l'Église. Puis, comme je vous dis, ça concernait pas le péché. Puis souvent on lit dans la Bible que les chrétiens, lorsqu'ils meurent physiquement, on dit pas qu'ils sont morts, on dit qu'ils dorment. Parce que, justement, à la fin des temps, on va être réveillé par Christ. Parce que souvent, le mot mort est directement relié au péché. Ça reste que nos corps s'éteignent, mais pas ce qui fait notre essence, pas ce qui fait notre esprit, puis l'esprit de Christ qui nous anime. Également, une chose qui est spéciale aussi, puis qui rentre dans la raison pourquoi Dieu a un plan au-delà du péché, c'est vraiment qu'Adam, lui, même si il a péché, Dieu savait qu'il allait pécher. Il n'a pas fait une erreur en créant Adam comme ça. Il a voulu lui donner le plein choix de faire ce qu'il veut, puis de reconnaître s'il voulait suivre Dieu pleinement ou suivre ses propres désirs. Évidemment, il a choisi ses désirs, puis il a choisi après ça que nous, on hérite de génération en génération de ça, du désir de suivre nos propres penchants, puis d'être des individualistes. Mais ici, Adam a jamais pu toucher à l'arbre de la vie, puis c'est quelque chose qui nous est accordé à nous. C'est quelque chose que Christ a voulu créer en nous rendant inébranlables en lui. Donc, pour résumer un peu ce bout-là, c'est le second homme s'est réveillé de son sommeil et son Église, créée en lui et à partir de lui, puise en lui afin de proclamer cette vie de résurrection. C'est vraiment glorieux parce que c'est pas quelque chose, évidemment, que personne d'entre nous peut faire de soi-même, de proclamer la résurrection de Christ de cette manière-là. Également, on peut voir à travers ça, à travers certains passages dans la Bible, on peut voir que le Fils unique s'est acquis des frères, devenant ainsi premier-né de plusieurs fils selon le désir de Dieu. On peut lire dans Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Également, un autre passage qui parle de ça. Dans Romains 8, 29 à 30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères et sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, c'est vraiment la gloire des enfants puis des fils de Dieu qu'on voit là-dedans puis qui est merveilleuse, qui est au-delà de ce que nous, avec nos yeux charnels, on peut voir. Puis, dans le passage qu'on vient de lire, on voit une forme de justification, justement, qui mène à cette gloire-là, mais qui est pas... Ici, on parle de pluralité. Une justification menant à la gloire pour une pluralité en plusieurs manifestant l'image d'un seul. C'est-à-dire que, oui, il y a le chrétien qui est sauvé puis qui est glorieux du fait qu'il est rempli du Saint-Esprit, mais au-delà de ça, il y a un corps. C'est le corps qui est justifié aussi puis qui amène à une gloire. La gloire de l'épouse de Christ, c'est une gloire qui est corporative, c'est-à-dire qui nous englobe tout le monde. Puis, tout ça, c'est pour représenter l'image de Christ qui est la seule image qui nous représente. En quelque sorte, c'est le fait qu'un seul grain de blé, Christ, est mort pour que plusieurs poussent. Donc, c'est encore une fois, on part du terme individuel, puis on s'en va au groupe, on s'en va au corps. Au niveau du plan aussi, on peut lire dans Jean, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. ça, ça mène vraiment à ce point-là que au-delà de la croix pour nos péchés, puis pour couvrir nos péchés, puis couvrir notre nature pécheresse, pour nous débarrasser de notre nature pécheresse, la finalité de la croix réside en une seule personne. Cette personne-là, c'est une épouse pour Christ. Le contenu de la croix, ce qui s'est passé là, c'est Christ qui l'a fait au complet. Ça n'a rien à voir avec nous au niveau de ce qui s'est fait, mais pourquoi il l'a fait? Il l'a fait pour son épouse. Nous tous, ensemble. Juste pour faire un petit survol de ce qu'on peut voir dans Romains à différents points, puis qui mène à cette vérité-là. Au chapitre 5, si vous voulez, peut-être dans les prochains jours, dans la prochaine semaine, relire Romains, je vous invite à le faire, vous êtes libre à vous, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est comment dans Romains, il y a une évolution vraiment claire de qu'est-ce que Christ a fait pour nous, puis où est-ce qu'il nous emmène. Au chapitre 5, on voit que, évidemment, nos péchés ont été pardonnés, ont été couverts par son sang. Au chapitre 6, ça nous amène beaucoup à réaliser que quand Christ est mort il y a 2000 ans, chacun d'entre nous, on est mort avec lui. Pas comme un événement, comme un événement historique. Comme si une partie de nous, il y a 2000 ans, était réellement là en Christ en train de mourir. Comme si c'est un fait. C'est pas juste une notion, mais on est vraiment chacun d'entre nous mort en Christ. Ensuite, au chapitre 7, de vraiment arriver, une fois qu'on a accepté Jésus, puis qu'on a décidé de le suivre, puis qu'on rentre dans cette joie-là, à un moment donné, en marchant avec Christ, on se rend compte que finalement, j'ai encore pas mal d'affaires à régler dans ma vie. Puis ça arrête pas, tu sais, ça continue. Puis un des éléments vraiment importants pour le chrétien, c'est de réaliser, comme c'est écrit là, que nous sommes par nature totalement incapables, inaptes. C'est pas une fausse modestie dans le sens de dire, soit une fausse modestie ou de se rabaisser soi-même. C'est pas de dire, ah, je suis un pas bon, je peux rien faire, moi, je suis pas capable de rien faire. C'est pas du tout ça. C'est de dire, ce que toi, Dieu a créé en toi, il peut l'utiliser. Puis ça, on va le voir plus tard. Mais de penser que c'est par tes propres forces que tu peux faire quoi que ce soit, non. Tu vas frapper des murs de plus en plus fort si tu continues dans cette direction-là, malheureusement, jusqu'à ce que tu te rends compte, c'est toi, Seigneur. Donc, chapitre 7 touche beaucoup à ça. Sans voir le passage exact, là, c'est le passage où il dit, « Oh, quel corps de mort j'ai. C'est quel corps misérable de mort j'ai. » T'sais, si je traduis un peu, là, c'est un peu ça. Il amène comme le découragement de notre nature pécheresse, puis il dit, ce que je veux faire, je le fais pas. Ce que je veux pas faire, je le fais. Puis c'est un peu ça qu'on vit. Mais il continue avec une espoir, avec l'espoir que, en Christ, il y a des choses qui peuvent être transformées. Au chapitre 8, il nous amène à ce qu'on soit, à cause de la réalisation du chapitre 7, à cause de la réalisation qu'on peut rien faire par nous-mêmes, vraiment que c'est l'Esprit Saint en nous qui fait tout. Puis là, lui, je dis lui parce que cette portion-là, c'est vraiment une étude là, du livre La vie normale chrétienne avec Watchman Nee. C'est que il y a du chapitre 9 à 11, c'est des chapitres super bons, c'est juste que dans la lignée de choses pour la vie du chrétien, ça concerne surtout Israël, surtout des choses qui concernent le peuple de Dieu par rapport à l'ancienne alliance, par rapport à la loi. Donc lui, il passe tout de suite au chapitre 12 en amenant le fait que c'est comme une conclusion du chapitre 5, 6, 7, 8 que parce que on a passé à travers toutes ces réalisations-là, peu importe dans quel ordre, maintenant nous devenons un seul corps en Christ. Puis le passage le plus marquant pour ça, c'est dans le chapitre 12, c'est le verset 1 à 5 que je vais vous lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous les membres des uns des autres. Amen. Puis, souvent, quand on lit la parole de Dieu, on lit des phrases un peu vite. Dans le sens où, c'est pas qu'on néglige nécessairement, c'est qu'on la lit, puis on regarde pas tout le temps les temps de verbe, ou on regarde pas tout le temps si c'est pluriel ou singulier. Puis moi, ça m'est arrivé pour ce passage-là. Si on reprend juste Si on reprend juste le verset 1, je vais reculer. Ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous remarquez que souvent, moi, je disais ça, puis je me disais, offrez votre corps, vous. C'est toi, Marc, offre ton corps. Toi, Diane, offre ton corps. Mais la phrase, c'est vos corps. Ça veut dire que c'est comme si ça nous amène, en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée, de tout le monde ensemble offrir nos corps pour un seul sacrifice. Puis ça nous amène à penser que marcher avec Christ en étant son épouse, en étant son Église, ça demande plus que nous-mêmes rechercher notre consécration, nous-mêmes rechercher la sanctification, qui est très louable, mais c'est de le faire en tant que corps, de le faire tous ensemble, puis de contribuer les uns aux autres. Par rapport à ça, il y a un appel à la consécration qui est fait un peu plus tôt dans Romains 6. Dans Romains 6, on peut lire « Offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. » Là, je trouve intéressant de voir la variante entre différentes versions de la Bible. Une autre version nous dit dans Louis II « Comme des instruments de justice. » Donc ça, c'est un appel à la consécration qui est peut-être un petit peu plus individuel, qui est très important en tant que disciple de Jésus. Puis dans Romains 12, on voit un écho de ça, mais qui a une portée un peu plus corporative, on peut dire. Je vous exhorte donc, frères, donc ici le même frère qui a été dit auparavant, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est la même consécration, mais ici, comme je vous disais, c'est le corps. Puis, ça ici, je l'ai déjà dit, mais c'est ça, c'est plusieurs frères, comme on voyait aussi le passage que je vous ai lu plus tôt. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Puis j'amène beaucoup, je reviens beaucoup à ça, mais c'est vraiment l'ensemble de nous tous qui est important dans le plan de Dieu. Donc, un appel à faire ensemble un pas de foi. Chacun d'entre nous, on est appelé à faire nos décisions pour Christ, puis à avancer avec lui. Mais si on se concentre juste à nos décisions à nous, puis notre marche à nous, c'est pas mauvais, dans le sens, c'est pas le plus grand des péchés, mais ça fait partie de la nature pécheresse de l'homme, dans le sens où c'est de l'individualisme. Puis Christ, son vrai plan total, c'est qu'on marche en tant qu'Église. Ça, c'est quelque chose qui est pas naturel à nous, puis qui est pas facile, qui est pas confortable non plus, pas pour moi, autant, pas plus pour moi, mais c'est quelque chose qu'on est appelé à faire, puis qu'on est appelé à faire aussi par l'aide du Saint-Esprit. Donc, c'est de s'unir pour la présentation de tous nos corps comme un seul sacrifice devant Dieu. L'aspect de présentation, c'est personnel. C'est sûr qu'on peut pas aller voir quelqu'un dans l'assemblée ou dans la ville qui est chrétien, puis lui tordre le bras pour lui dire présente ta consécration. C'est personnel, mais c'est pour devenir un seul sacrifice. Puis j'avais pas vu ça comme ça avant, à quel point Dieu ramène tout le temps ça à un seul sacrifice. Oui, celui de son Fils, mais aussi la marche de son Église, puis comment son Église se donne pour le monde entier, par l'aide du Saint-Esprit. Donc, en lien avec ça, c'est vraiment que chacun de nous, on est qui on est. On peut pas faire semblant d'être quelque chose d'autre. Mais l'important, c'est le service que le corps rend à Dieu, puis le service que le corps rend aussi à l'extérieur de nos assemblées, pour les gens qui connaissent pas Dieu. Donc, des points que je voulais être sûr de pas oublier, c'est vraiment que souvent, dans l'Église, on regarde à des ministères qui sont plus en vue, mettons, amener un message, faire la louange, faire des choses qui sont visibles. Mais c'est pas vrai que c'est les choses les plus importantes ou que c'est les seules choses qu'il y a dans l'Église. Le corps de Christ, c'est pas les réunions du dimanche matin. C'est ce qu'on vit toute la semaine avec nos collègues, avec nos familles immédiates, nos familles élargies. Puis, faut vraiment pas que personne pense qu'il est pas nécessaire au corps, parce que juste d'amener un service au corps, c'est de faire le service que Dieu veut qu'on fasse. Dans Romains 12, 3, on ramène la précision à cet aspect-là, justement. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, de vraiment marcher dans ce que Dieu veut qu'on fasse, mais pas penser qu'il faut absolument que ça soit quelque chose de don bien merveilleux, puis de don bien plus haut, puis plus beau que ce que les autres font. Ça, c'est plus comme vouloir faire du ministère orgueilleux, puis ça nous arrive à un moment donné, là. Mais Dieu nous appelle humblement à voir devant lui c'est quoi notre place, aussi humble puisse-t-elle être, puis notre vraie place, dans le fond, c'est de servir. Peu importe où, c'est de servir dans son corps. Puis quand on va faire ça, là, on va être vraiment dans ce que le verset 2 nous amène. On va être vraiment dans la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est large, ça, dans le sens que si on t'arrive demain matin puis on dit, bon, ben là, par toi-même, là, fais ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu, je pense qu'on y arrive pas. Mais si, ensemble, par l'œuvre du Saint-Esprit, on sert, on se sert les uns les autres, mais on sert les gens autour de nous, Dieu nous dit que c'est suffisant pour lui. C'est son standard. C'est d'accomplir l'objectif éternel de Dieu en Christ Jésus. C'est que le corps marche ensemble. Donc, encore une fois, ça revient au verset que je vous ai lu tantôt. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres. Il y a un concept par rapport à ça qui résume ça un peu. C'est ceci, le cadre, le dessein par lequel le Seigneur Jésus peut se révéler dans cette génération n'est pas l'individu, mais le corps. Ça ne veut pas dire que quand on est isolé pour une raison ou une autre dans le ministère, qu'on peut rien faire. Mais ça veut dire que si on veut vraiment avoir un impact autour de nous, c'est ensemble qu'on va le faire. C'est quand les gens de l'extérieur, les gens qui ont des besoins, vont voir le corps de Christ marcher vers eux, s'aimer, puis aimer en retour, puis déverser de l'amour qui est surnaturel. C'est ça qui va transformer les gens. C'est ça qui transforme. Puis moi, j'ai beau avoir les plus belles intentions du monde, si je me dis, ah, c'est trop compliqué de travailler avec telle ou telle personne me rend mal à l'aise, je vais faire un beau gros projet, mais je vais le faire tout seul, parce que je sais ma valeur, je sais comment organiser les choses, puis je vais le faire tout seul. Dieu va pas nécessairement empêcher que des gens soient touchés par Christ à travers ce que tu vas faire, mais ça sera pas du tout l'impact que si le corps avait mis la main à la tâche ensemble. Donc, comme j'ai mis là, ça prend un corps tout entier pour atteindre la stature parfaite de Christ, et proclamer sa gloire. Dans le sens où aussi que Dieu nous promet qu'il va nous amener à sa stature parfaite au jour de son retour, mais ce qui nous fait cheminer vers ça, c'est d'être tout ensemble aussi comme étant le corps de Christ. Donc, au niveau de l'imagerie du corps qu'on voit souvent dans la parole de Dieu, on a l'œil, l'oreille, les pieds, les mains, il y a toutes sortes d'autres organes, mais la parole nous dit que l'œil ne pense pas qu'il est l'oreille ou vice-versa. Que les pieds qui veulent absolument agir et faire quelque chose, ils ne pensent pas qu'ils sont les mains. Il faut qu'on communique, il faut qu'on soit un. Puis ça, c'est par l'esprit, évidemment, mais par la prière, puis par le fait que le Saint-Esprit change nos façons de voir les choses, puis nous fasse voir chaque chose qu'on fait pour Dieu, qu'on le fasse en communion les uns avec les autres. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le doigt, c'est pas la bouche, c'est pas la jambe ou l'orteil ou l'oreille. C'est tout le corps qui doit participer et contribuer à ce que la promise de Christ grandisse. Donc, la promise, c'est l'épouse. Mais en tant que telle, ce que j'ai cru comprendre dans la Bible, c'est qu'on n'est pas encore marié. On est promis. On va être marié aux noces de l'anneau, aux noces de l'agneau au ciel. Donc, on est comme une promise qui a été choisie puis qu'elle est toute jeune. Puis elle s'est fait dire, bon, toi, grandis bien, parce que quand tu vas être grande, quand tu vas être une femme mature, tu vas marier Christ. Puis cette promise-là, elle fera pas rien si c'est juste des petits orteils qui se promènent puis qui s'en vont essayer de faire quelque chose. Même s'il y a du Q-Tex, là, puis tout, là, ça... c'est l'ensemble. Les mains vont dire aux pieds, « Hey, tu m'amènerais-tu là-bas? J'ai quelque chose à prendre. » Puis là, il va dire, « Oubliez-moi pas parce que ça va aller mal en chemin. » C'est de fonctionner. Puis des fois, on s'apitoie, on se dit, « Ah, oh, Seigneur, transforme-moi en œil. Je veux être un œil, Seigneur. » Puis là, le Seigneur, il le fait pas. Tu dis, « Seigneur, réponds pas à mes prières. » Mais il dit, « T'es l'oreille, débouche. » C'est ça qui nous arrive des fois. C'est puis des fois aussi, on compartimente. Quelqu'un fait la louange, on dit, « Ah, cette personne-là est bénissante quand elle fait la louange. C'est ça qu'elle est, elle. Elle a fait la louange. » C'est tout. Mais Christ, lui, il a pas dit, « Toi, tu fais la louange, puis bouge pas de là. Va pas à gauche, va pas à droite. » Christ a prévu peut-être des millions d'autres affaires pour cette personne-là. Il faut laisser son esprit agir, puis laisser les gens être ce qu'ils sont. Évidemment, dans le cadre du corps qui s'entraide. Donc, un peu comme j'écris là, ce que je connais pas, d'autres le savent. Souvent, ça va avec la mentalité, je connais pas ça, là, puis c'est pas grave, je vais me débrouiller. Mais c'est pas ça dans le corps. Dans le corps, faut avoir le réflexe qui vient pas de nous, encore une fois. Je le sais pas, ben quelqu'un le sait. Quelqu'un dans le corps le sait. Puis on va travailler ensemble pour rentrer dans la joie de ces choses-là. Donc, comme je disais, je peux pas fonctionner pleinement sans les autres. C'est dur à admettre, mais c'est vraiment ça, dans le fond. En Adam, j'ai la vie individuelle dans la communion de mes propres intérêts puis une méfiance naturelle des autres. Il y a différents degrés de méfiance, mais c'est le péché qui fait ça, dans le fond. C'est notre individualisme. On veut être autosuffisant, puis ça, même dans des choses qui ont l'air belles, comme la poursuite de la sanctification, la croissance personnelle, puis la recherche d'avoir mes propres fruits. Là, j'ai fait exprès pour le mettre au pluriel. Mes propres fruits, c'est moi qui essaie de les créer. Tandis que si je laisse Christ faire l'œuvre, c'est un seul fruit, c'est Christ. Souvent, on prie Dieu, « Ah, Seigneur, donne-moi de la patience, mets dans mon cœur ta patience. » C'est pas si mal que ça, sauf que en réalité, dans le fond, c'est Christ qui est toute la patience. C'est Christ qui est tout ce qu'on veut. Fait qu'on a juste à demander à Christ, « Christ, brille en moi. Fais l'œuvre. Je te laisse la place. Sois patient en moi. Parce que moi, t'as beau essayer de me transformer autant que tu veux, c'est toi qu'il faut qu'il fasse en moi. » Donc, à travers ça, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un grand besoin. J'ai un grand besoin de l'œuvre de la croix afin de mourir quotidiennement à mon individualisme. Puis, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Moi aussi, j'ai toujours été un peu plus introverti, puis je suis du genre à, quand j'ai besoin de me ressourcer, ben c'est seul. C'est comme je me fais un petit cocon, puis mais Jésus me dit, tu peux te ressourcer en moi, puis tu peux te ressourcer en moi avec le corps. Ça veut pas dire de jamais prendre de temps pour être moi-même, mais ça veut dire d'arrêter d'avoir mes réflexes que je me moi, tassez-vous, j'ai besoin de mon temps, allez-vous-en. c'est d'être au moment présent, de voir qu'est-ce que l'Esprit veut que je sois pour mon frère, ma sœur. Peut-être que moi, je pense que j'ai donc besoin de temps pour moi-même, mais d'aller vers mes frères et sœurs puis de les bénir, ça va me ressourcer tellement plus parce que Dieu m'appelle à appeler telle personne ou à faire quelque chose pour son corps. Je parle pas d'être dans l'activisme non plus, mais juste d'être à l'écoute de qu'est-ce qui peut réellement nous donner une paix et une joie. C'est-tu tout le temps, moi en tant que parent, c'est souvent ça, c'est les enfants se couchent, puis là, bon, mon temps à moi, qu'est-ce que je vais faire pour mon temps à moi? C'est-tu tout le temps ça que Dieu veut, ou il y a peut-être d'autres choses pour moi que mon temps à moi? Tu sais, c'est un peu ça. Faire confiance à Jésus par moi-même peut ne pas être suffisant. Parce que je dois apprendre à lui faire confiance avec les autres. Puis ça, c'est vraiment surnaturel. Parce que la confiance, c'est la base de toute relation. Puis déjà, on a de la misère à marcher par la foi avec Christ des fois pour nous-mêmes. Là, il nous appelle à le faire avec nos frères et sœurs. Mais c'est ça son plan. Aussi difficile ça peut paraître, c'est ça son plan. Et je trouvais intéressant aussi, parce que j'avais pas vu ça comme ça, je dois apprendre à prier notre Père. La prière que Jésus nous amène à prier, l'exemple de prière qu'il nous donne, c'est pas mon Père qui est dans les cieux, c'est notre Père qui est dans les cieux. Puis, moi, c'est un autre passage, comme je vous disais, comme dans Romains 1, que j'avais pas vu le groupe là-dedans. Je m'étais dit, il est poli avec Dieu, il utilise une formule de politesse, mais c'était pas ça. C'était nous tous, notre Père à nous tous. On va enchaîner avec la communion ce matin. Vraiment réaliser que la communion qu'on va prendre, mais la communion aussi qu'on a les uns avec les autres, dans la prière, dans l'échange fraternel, le partage de la parole, la louange, c'est ça qui unit le corps de Christ par son esprit. Puis il y a un passage que je trouve intéressant par rapport à ça. Dans Actes 2, 42, un passage que vous connaissez sûrement, « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » C'est ça que je veux qu'on fasse aussi ce matin. Qu'on continue à le faire d'autres moments, évidemment, mais qu'on prenne un temps pour ça ce matin. J'ai invité Mathieu et Benoît, un blanc, à aller chercher les éléments. Donc, ce matin, juste pour faire un résumé du partage qu'on va faire au niveau du pain et du vin, c'est bien entendu de se souvenir de ce que Christ a fait à la croix. Christ a donné sa vie en mourant sur la croix, en versant son sang précieux pour nous. Puis ça, c'est le vin, évidemment. Mais aussi sa mort à la croix, qui a été brisée pour nous, c'est son corps. Puis, je pense aussi que ça peut représenter, au-delà de ça, tout l'aspect de sa mort. Dans certains passages de Corinthiens, on nous amène à dire, quand on prend le repas du Seigneur, c'est pour commémorer la mort de Christ, c'est pour proclamer sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Pas parce qu'il n'est pas ressuscité, mais parce que sa mort, c'est ça qui œuvre en nous pour dire, c'est pas moi, c'est pas ma chair qui va faire l'œuvre aujourd'hui, c'est parce que je suis mort avec Christ. C'est le Saint-Esprit qui va faire l'œuvre aujourd'hui autour de moi puis dans le corps de Christ. Puis je pense que c'est ça qu'on peut faire ce matin aussi. Puis au niveau de cet aspect-là, il y a aussi le fait que l'image de la séparation du vin puis du pain, ça représente aussi la séparation du corps puis du sang. On s'entend que quand le sang n'est plus dans le corps, ben ça représente la mort. Puis la même chose, étant donné que le vin est un produit du raisin, ben le raisin il a été écrasé, il a été compressé, il a été anéanti pour pouvoir créer le vin. Puis le pain, ben c'est le grain, le fameux grain qui est tombé en terre pour que plusieurs poussent. Ben c'est avec ça qu'on a fait le pain. Puis c'est avec ça, en l'écrasant à la meule, qu'on a pu faire le pain. Fait que c'est encore pour proclamer la mort de Christ en quelque sorte. Donc, il y a l'aspect primordial, qui est souvent le avec raison, le centre de pourquoi on prend le pain et le vin, qui est ce souvenir de Christ. Donc, la commémoration, on pourrait dire, verticale, entre nous et Christ, entre nous et Dieu. Mais je pense qu'il y a un aspect horizontal aussi, il y a un aspect du corps, c'est de se rappeler que tout ça, ce pain-là et ce vin-là, on le prend tous ensemble. Puis c'est un symbole qu'on est unis tous ensemble. On est tous unis comme étant le corps en Christ, puis on est tous unis comme étant ceux qui ont été lavés par le sang. Puis je trouvais ça intéressant aussi d'imaginer que ce pain-là, on a chacun un morceau, puis on va tous le prendre, mais ça demeure un seul pain. Même si chacun d'entre nous, on le mange individuellement, ça demeure un seul pain. Pendant qu'on prend le pain et le vin, j'avais à cœur de vous lire quelque chose de différent un peu. Je voulais quand même prendre la peine d'expliquer toute la puissance que ça a, la commémoration. Mais je vois un parallèle intéressant avec la prière que Jésus nous a amené à faire, ce qu'on appelle souvent le Notre Père. Donc, je vais avancer jusque-là. Avant qu'on ait tous les éléments, il y a vraiment un aspect de la communion que je veux que l'Esprit nous... que l'Esprit veut nous communiquer à travers ça. C'est, je l'ai dit tout au long du message, mais c'est le tout. Que ce corps-là qui est brisé, c'est Christ qui le fait une fois pour toutes. Mais ça nous rappelle aussi que en tant qu'Église, on est là pour le servir, puis on est là tous unis, vraiment unis. On les réalise pas tout le temps parce qu'on a chacun nos trains de vie, on a chacun nos familles immédiates, puis on vit dans un monde ultra rapide, puis de plus en plus rapide en plus. Mais qu'on puisse réaliser cette semaine, moi le premier, que on est membres les uns des autres. Puis que par ce pain puis ce vin-là qu'on prend ce matin, qu'on puisse se rappeler ça aussi. Puis tout ça part évidemment par le sacrifice de Christ, puis comment il nous a créés de lui, comment il a dormi 3 jours, puis Ève, la deuxième Ève, est sortie de lui. Donc, je vous invite, pendant que je lis, à prendre, quand vous avez à cœur, le pain et le vin. Je fais pas nécessairement une séquence ce matin, mais juste à écouter ce verset-là pendant qu'on le fait, puis méditer un peu sur tout ça. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Père éternel, je te remercie pour ce pain qui est quotidien, qui est tellement de choses, qui est ta parole, qui est ton esprit en nous, divisé en chacun d'entre nous comme ce pain qu'on a pris ce matin, mais qui anime le corps, qui fait de ce corps ta force dans ce monde. Je te prie, Seigneur, aussi de nous guider à l'unité toujours plus, mais l'unité pas recherchée par notre propre force, mais l'unité recherchée par ton esprit, par la communion en prière les uns avec les autres, par la communion d'amour qui vient de ton amour qui déborde, Seigneur. Merci, Père éternel. Le dernier, s'il vous plaît. Non. Dans mon message, le dernier. Toutes les choses que je vis, toutes les prières que je veux te faire, que je puisse commencer par te louer et te chanter Alléluia. Parce que dans ce Alléluia, je t'élève et je te mets en premier pour que toi, tu mettes ta main sur les choses de ma vie. Pour que toi, tu me montres un chemin, pour que tu rouvres les portes, tu fermes les portes. Pour que ton œuvre se fasse en moi, mais en ton Église, Seigneur. Que chacun d'entre nous, on puisse chanter Alléluia comme anticipation par la foi que Christ œuvre dans nos vies, puis œuvre autour de nous, puis œuvre dans son Église.
Tu es saint.
Seigneur, je veux juste vous retenir une petite minute, 30 secondes. Après ça, on va conclure. Il y a un chant qui me touche beaucoup, qui est d'un groupe qui s'appelle Shaded Red. C'est un groupe qui a eu des grosses difficultés, pour faire une histoire courte. Il y a plusieurs années, ils ont eu, après un concert, un gros accident, puis le drummer est décédé. Puis plusieurs membres du groupe ont passé presque un an à l'hôpital, tellement que c'était sévère comme accident. Puis ils ont écrit cet album-là, dont cette chanson-là, pendant cette période-là difficile. Mais c'est un album qui loue Dieu. Au-delà de toute cette souffrance-là, c'est un album qui loue Dieu. Puis dans ce contexte-là, ils ont écrit la chanson « About My Love », à propos de mon amour. Je vais juste vous lire rapidement en français la traduction. Le compte à rebours a commencé. Tes mains reposent sur les miennes. Nous nous envolerons au loin. Aucune force ne peut affecter mon amour pour toi maintenant. La foudre frappe le sol, la bataille fait rage en ce moment. Pour toi, mon amour, je donnerai tout. Vois mon cœur qui saigne pour toi maintenant. À propos de mon amour est une flamme dévorante, plus puissante que la mort, tellement plus forte que la tombe. Prends-moi comme ton anneau. Ce soir, tu ressentiras une paix. Au-delà des étoiles, vers les salles des trésors de la vie, tu verras les portes des cieux grandes ouvertes. Oh, la victoire est déclarée. Alors que la terre et les anges acclament, je prononcerai mes vœux pour toi, mon amour, afin que tous, dans les cieux et sur la terre, en soient témoins dès maintenant. À propos de mon amour est une flamme dévorante qui ne peut être engloutie par les flots. Mon amour va conquérir la honte. C'est Christ qui nous dit ça. Nous, son épouse. Puis, soyons bénis de ça qu'on est une épouse, un seul corps pour Christ. Amen.